c'est pour essayer de comprendre ce qui est l'intention dominante, me semble-t-il, de ce grand livre. C'est difficile à comprendre et en même temps si important, parce que c'est le seul livre, je crois, d'écriture où il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Donc une béatitude qui est donnée pour ceux qui veulent entrer dans le mystère de l'Apocalypse. Et on comprend très bien. Je crois que l'Apocalypse doit nous aider à garder l'espérance. Parce que l'Apocalypse nous montre qu'on est engagé dans une grande lutte, une lutte vertigineuse, bien plus grande que tout ce que nous pouvons voir. Et que cette lutte vertigineuse, c'est le prolongement du mystère de la croix du Christ. Et comme Jésus est victorieux, nous sommes victorieux en lui. Et nous sommes déjà victorieux à travers cette lutte que nous subissons, à travers cette vie dans laquelle on est engagé. Et je crois que c'est cela que l'Apocalypse fait comprendre. Elle fait comprendre le mystère de l'Église dans sa dimension de lutte. Et qu'on ne peut pas comprendre l'Église en dehors de cela. L'Église est engagée dans une lutte à la suite de Jésus, à la suite de Marie. Je crois que Jean a eu cette intuition profonde en écrivant l'Apocalypse à Patmos, sous l'action d'Esprit Saint. Je ne crois pas du tout que Jean avait les autres apocalypses à côté de lui, n'est-ce pas celle de Daniel ou celle de l'Ancien Testament, et qu'il a été pris dans un rap. Il le dit lui-même. Là, on peut dire que c'est une manière de parler, et je crois que c'est beaucoup plus qu'une manière de parler, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il a saisi profondément. Alors il me semble que cette intuition dominante que Jean connaît ici, c'est justement ce que Marie lui a révélé au moment de la révélation du vieillard Simon, que le Saint-Luc nous donne, le glaive, de transpercer l'âme de Marie. C'est ce glaive qui transperce l'Église. Et il me semble que le mystère de l'Apocalypse, c'est de nous révéler ce glaive, de nous révéler cette lutte, un signe en but en contradiction. Et les secrets du cœur nous sont révélés. L'Apocalypse nous donne les secrets du cœur, parce qu'elle nous fait comprendre ce qui est du Christ et ce qui n'est pas. Ce qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint, ce qui est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Mais l'Apocalypse nous montre au moins qu'on est engagé dans cette lutte. À ce point de vue-là, c'est quelque chose de très grand. Alors, au point de départ, il nous est bien montré que c'est une révélation sous ce point de vue-là, on a raison de mettre l'Apocalypse en tête. Aspect, j'aime bien de considérer ce que certains exégètes d'aujourd'hui disent, que sans doute l'évangile de Saint Jean a été écrit après l'Apocalypse. J'aime bien dire cela, ça c'est pas révélé, puisque ce n'est qu'une opinion des exégètes, mais c'est une opinion qui me semble intelligente, qu'on doit regarder. Je crois que Jean n'avait pas envie du tout d'écrire un évangile. Quand on est lié à la manière dont il était lié à Jésus et à Marie, Jean avait été très heureux de rencontrer Luc. Il avait sûrement transmis à Luc tout ce qu'il semblait avoir transmis. Et il se considérait donc comme satisfait. L'évangile de Luc donnant les secrets que Marie lui avait communiqués. Et voilà qu'à la fin de sa vie, Jean reçoit cette secousse qui a dû être une chose terrible, de l'Apocalypse. Parce que déjà lire l'Apocalypse, ça vous secouait, si on la lit vraiment. Et alors, recevoir l'Apocalypse directement, ça a dû quand même secouer Jean, d'une façon très très forte. Et c'est ce qui explique comment Jean, ayant reçu cette grande secousse, écrit la première épître. Et puis, se décide d'écrire l'Évangile. C'est pour ça que l'Évangile de Jean, c'est l'Évangile de ceux qui doivent subir la grande épreuve, de ceux qui sont engagés dans le grand combat apocalyptique. Et alors, si c'est vrai ceci, c'est important parce que ça nous montre que l'Évangile de Saint Jean et l'Apocalypse, tous les deux se tiennent, et que d'une certaine manière, on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. On ne peut pas comprendre parfaitement l'Évangile de Saint Jean sans regarder l'Apocalypse, et on ne comprend pas l'Apocalypse sans regarder l'Évangile de Saint Jean. Les deux se tiennent très fort, mais je crois que nous devons lire l'Apocalypse dans la lumière de l'Évangile de Saint Jean, et non pas l'inverse. Et on comprend tout de suite, parce que l'Évangile de Saint Jean, c'est le mystère de Jésus, et l'Église ne peut se comprendre que dans la lumière du Christ. Je ne peux rien comprendre à l'Église si je regarde l'Église en elle-même, parce que l'Église en elle-même n'a pas de tête et n'a pas de fin. Et donc c'est quelque chose qui est essentiellement un milieu, essentiellement un instrument. L'Église ne peut être saisie comme Église que dans la lumière du Christ. Et donc dans la lumière ultime qui nous est révélée sur Jésus, l'Évangile de Saint Jean. Et l'Évangile de Saint Jean alors nous éclaire sur l'Apocalypse et nous fait comprendre le sens plénier et total de l'Apocalypse. C'est pour ça que je crois bien qu'on lit l'Évangile de Jean pour entrer dans l'Apocalypse, mais l'Évangile de Jean nous éclaire sur l'Apocalypse et nous fait comprendre le mystère d'Apocalypse. C'est facile à comprendre, parce que si je regarde l'Évangile de Jean, je vois que les deux grands axes qui commandent tout l'Évangile de Jean, c'est le mystère de l'agneau et c'est le mystère de l'époux. C'est les deux choses que Jean a reçues de Jean-Baptiste, son maître. Le mystère de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde, celui qui a l'épouse et l'époux. C'est les deux grandes révélations que Jean-Baptiste a communiquées à Jean. Celui qui sera le disciple bien-aimé. Et c'est de fait les deux grandes lumières de l'Apocalypse. Première lumière, chapitre 4. Nous voyons le grand mystère de l'agneau qui pénètre dans le temple et qui a le pouvoir de révéler, d'enlever les sceaux du petit livre. Et donc il y a là un grand axe de l'Apocalypse. Et quand on lit l'Apocalypse, je crois qu'il faut bien comprendre cet axe-là qui est commandé par le mystère de l'agneau comme égorgé. Et toute l'Apocalypse se termine par les noces de l'agneau. Donc, l'agneau époux vis-à-vis de la Jérusalem céleste. Et alors, à ce moment-là, nous comprenons comment ce qui nous est donné dans Saint Jean nous montre bien les deux grands... Ça se recoupe, si vous voulez, parfaitement avec l'Apocalypse. Oui. Bon, ça me semble être absolument les liens très forts qui existent entre les deux. D'autre part, je pourrais comprendre aussi que Jean insiste énormément sur les luttes de Jésus, beaucoup plus que les synoptiques. Il nous montre que Jésus a combattu face non seulement au démon, mais face au suppôt du démon. Voyez chapitre 8, montre ça d'une façon très étonnante. Quand Jésus leur dit, votre père, c'est le démon. C'est Satan. Donc Jésus démasque au peuple d'Israël qu'il est sous la mouvance du démon. Et c'est pour ça qu'il veut le tuer. Et ça, dans les synoptiques, ça n'est pas dit. Autrement dit, Jean a eu un sens beaucoup plus profond que les synoptiques, que Jésus a combattu toute sa vie. Il a chassé le démon on les exerce. Jean ne donne pas, mais Luc le donne. Et si je mets les deux, Jean ne refuse pas. Il y a eu la lutte, comme un duel, face à face, au désert. Et quand le démon a été chassé, il est revenu sous une forme diverse, à travers ceux qu'il agissait, pour attaquer Jésus et arriver à le livrer. Bien, nous retrouvons dans l'Apocalypse ces deux aspects. Nous retrouvons le duel face à face de la femme, alors c'est plus Jésus, c'est la femme, c'est l'Église, c'est Marie, et le dragon. Et puis nous voyons que si la femme est victorieuse, si la femme part au désert et que là le dragon ne peut plus la poursuivre, le dragon ne s'avoue jamais vaincu, et alors il se sert de la bête de la terre et de la bête de la mer. Alors nous retrouvons la même structure de combat. Le combat est bien toujours un duel, c'est évident, c'est un face-à-face personnel. Mais comme le démon ne s'avoue jamais vaincu et qu'il poursuit jusqu'au bout sa lutte, on comprend comment il y a un anonymat du démon. Il se cache derrière la bête de la terre et derrière la bête de la mer. Il se sert de la bête de la terre et de la bête de la mer pour encercler les descendants de la femme. Non pas la femme, mais les descendants de la femme. Descendants de la femme, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés au Christ. Alors je crois que ça nous donne le parallélisme assez profond entre l'évangile de Saint Jean et l'Apocalypse. Alors maintenant, si vous voulez, entrons bien dans ce que représente la structure de l'Apocalypse, autant que nous pouvons donner, hein, parce que je ne peux pas tout reprendre. Au point de départ de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bien vite. Et il l'a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean. Alors je crois qu'ici encore, nous pouvons, grâce à l'évangile de Saint Jean, éclairer. Jésus, dans l'évangile de Jean, est toujours l'envoyé. Alors est-ce qu'ici, nous ne pouvons pas dire que Marie, c'est l'envoyé par excellence? Elle est donc l'ange, puisque Angelos, c'est l'envoyé. Et alors on devrait presque traduire l'envoyé. Il l'a signifié par l'envoi de son envoyé. Alors à ce moment-là, ça cache le mystère de Marie. Marie n'est-elle pas la reine des prophètes? Toute la tradition l'a regardée comme la reine des prophètes. Et quand il s'agit de l'Apocalypse, il s'agit de la prophétie par excellence. C'est la prophétie type. Il ne peut pas y avoir une prophétie plus parfaite que l'Apocalypse. Hein. Ça, c'est bien évident. Et toutes les autres prophéties doivent se lire dans la lumière de l'Apocalypse. Absolument toutes. Et dans la mesure où elles éclairent l'Apocalypse, elles nous aident. Et dans la mesure où elles sont en opposition aux Apocalypses, elles sont fausses. C'est l'Apocalypse qui est la mesure de ce que représentent les prophéties. Alors, à ce point de vue-là, je crois qu'il est bon de comprendre ce rôle très particulier de Marie dans l'Apocalypse. Ça, c'est une lumière joannique. Puisque Marie joue un rôle si important dans l'évangile de Saint Jean. Et je crois que Marie joue un rôle très important dans l'Apocalypse, mais caché. Elle est cachée comme l'envoyé. Et au fond, quand on est un envoyé, en pleine lutte, on se cache, on sait très bien. C'est le rôle propre de l'envoyé, quand on a un rôle important à jouer, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'en temps de paix où on manifeste tous ses galons, mais en temps de guerre, on ne les manifeste pas, n'est-ce pas ? Et on se cache, et on est là justement pour aider et aller le plus loin possible. Et alors, c'est bien ça le rôle de l'Apocalypse. On montre que Marie est cachée derrière les anges, elle est la reine des anges, mais elle est l'ange. Et alors le rôle des anges montre le rôle de Marie. Et il faut découvrir cela. Et ça, on l'a très peu fait. Mais je crois que si on lit l'Apocalypse dans la lumière de l'évangile de Saint Jean, c'est facile à comprendre. Il a signifié par l'envoi de son ange à son esclave Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ces prophéties et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Il n'a jamais été aussi proche. Donc, on peut le dire avec d'autant plus de force. Et d'autre part, je regarde le terme, parce qu'il faut toujours voir le point de départ et le terme, je vois que dans l'Apocalypse, il y a quelque chose de très extraordinaire dans la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester cela au sujet des églises. Vous voyez, le point de départ et le terme se retrouvent. C'est la révélation du Christ par l'intermédiaire de son envoyé, par l'intermédiaire de Marie à Jean. C'est tout à fait normal que Jésus se serve de Marie pour éclairer Jean. Moi, je suis le rejeton et la race de David, l'étoile resplendissante du matin. Et l'esprit et l'épouse dit « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste, moi, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les plaies qui sont décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, qui sont décrits dans ce livre. C'est très important, il me semble, qu'il y ait cette attestation si forte, de montrer que la parole de Dieu, on n'a pas le droit de la manipuler. Et que la parole de Dieu, on doit la prendre intégralement, telle qu'elle est donnée. Qu'on n'a ni le droit de retrancher, ni le droit d'enlever. Vous voyez ? Et ça, c'est donné comme le dernier livre, hein, sur le sceau de Dieu, sur la parole de Dieu. Et c'est Jésus lui-même, hein, qui s'en porte garant. Dans un monde comme aujourd'hui, n'est-ce pas, où, de fait, les tremblements apocalyptiques sont si présents dans l'Église. Dans le monde, ils ont toujours existé. Mais dans l'Église, c'est très nouveau. Et Paul VI l'a signalé. Ces tremblements apocalyptiques ne peuvent être que la relativisation de la parole de Dieu. Ce qui existe aujourd'hui avec la méthode herméneutique. On relativise la parole de Dieu. Et dès qu'on relativise la parole de Dieu, on ne peut plus atteindre le roc. Et par le fait même, notre foi ne peut plus avoir la certitude qu'elle devrait avoir, puisque notre foi est certaine dans la mesure même où c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors très bien, c'est une opinion. Mais si c'est la parole de Dieu, la foi a cette certitude, parce qu'elle s'appuie sur le roc. Le roc étant justement le Christ, étant justement Dieu qui nous parle. Alors, c'est important de comprendre que les tremblements de terre apocalyptiques, c'est justement la relativisation de la parole de Dieu. Et l'Apocalypse elle-même le signale en montrant que si je retranche et que si j'enlève, eh bien alors à ce moment-là, hein, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrites dans ce livre. Celui qui atteste cela dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. » Alors, point de départ et terme, hein, qui montre la gravité et l'importance de cette révélation. Vous avez ensuite cette première vision, et ça, je crois que ce serait très intéressant de monter ces grandes montées vers le ciel, hein, ces grandes visions du ciel, parce que c'est le seul livre qui nous donne des visions du ciel. Alors, ce serait très important de mettre en parallèle ces grandes visions du ciel. Il y en a deux qu'on doit mettre toujours en parallèle et qui sont faciles à comprendre. Celle qui commence ici, celle qui est donnée ici au point de départ, je la relis parce qu'elle est particulièrement belle, je ne dirai pas l'autre qui est encore plus belle, mais qui a une grandeur, une ampleur extraordinaire, c'est celle du chapitre 4. Au chapitre 4, vous avez de nouveau cette grande vision du ciel. Alors je prends les deux, il y en a beaucoup d'autres, hein. Alors il faudrait les noter. Alors on mettrait toutes ces visions du ciel parallèlement, parce que ce sont des portes vers le ciel. Jean aux sept églises qui sont en Asie, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient,
de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime et nous a délivré nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire, la domination pour les éternités d'éternité. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux-là qui l'ont transpercé, et à son sujet se frapperont la poitrine toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Donc on retrouve, point de départ et terme, hein, cette grande affirmation pour montrer que l'Apocalypse, c'est nous préparer au retour du Christ. Et toute notre vie de la terre, si nous sommes vraiment chrétiens, si nous avons l'espérance, c'est nous préparer au retour du Christ. Parce que nous avons très peu le sens. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est nous préparer au retour du Christ. Et nous préparer au retour du Christ de la manière la plus intelligente qui soit. C'est-à-dire, comme il est dit dans la parabole de l'Écriture, et que Jésus lui-même le dit, n'est-ce pas ? Préparer le retour du Christ, ce n'est pas enfouir ses talents. Préparer le retour du Christ, c'est développer les cinq talents que nous avons. C'est développer les talents que Dieu nous a donnés. Les enfouir, ce n'est pas attendre le retour du Christ. Parce qu'alors, c'est se refermer sur la crainte. L'ancienne alliance pouvait se refermer sur la crainte, mais pas la nouvelle. Parce que c'est une alliance d'amour. Alors, elle s'ouvre au contraire sur le retour du Christ. Et ça, c'est très très net. Toute l'Apocalypse nous montre ça. Voici qu'il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux-là qui l'ont transpercé, et à son sujet se frapperont la poitrine, toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Donc ça c'est l'annonce. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à l'affliction et au royaume et à la constance en Jésus. Je me trouvais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme d'une trompette qui disait « Ce que tu regardes, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Alors les sept églises. Et je me retournai pour regarder la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis sept lampadaires d'or. Et au milieu des sept lampadaires, quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Vêtu d'une robe talaire et ceint à hauteur de poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du bronze qu'on aurait purifié au four, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa puissance. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici que je suis vivant pour les éternités d'éternité. Et j'étais les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui va arriver. » Dans la suite, quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma main droite et des sept lampadaires d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept lampadaires sont les sept églises. Je crois ça très important pour comprendre la signification de l'Apocalypse parce qu'il nous est montré Jésus gouvernant les églises et c'est Jésus dans sa gloire. Donc, vous voyez, tout le grand mystère de saint Paul, de la tête et des membres, est vu dans une autre perspective, dans une perspective qu'on pourrait dire, qui serait très actuel, d'un certain pluralisme, parce qu'il s'agit des sept églises. Et on voit bien que les sept églises ont un caractère particulier. Vous voyez ? Alors, on pourra l'interpréter, ça a été interprété de cette manière, selon le point de vue du temps, que l'Église, au cours des siècles, a pris une physionomie particulière. La première Église, c'est l'Église d'Éphèse, c'est l'Église des Actes des Apôtres. Puis après, vous avez l'Église, ensuite, progressivement, jusqu'à la dernière Église, qui est l'Église de Laodicée. Et si vous voyez, il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai dans ce point de vue-là. Et l'Église de Laodicée, c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Voici ce que l'amène, le témoin fidèle et véridique, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, puisses-tu être froid ou chaud. Ainsi, puisque tu es tiède et ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est vrai, c'est la tiédeur qui est la chose la plus terrible. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que c'est toi qui es le malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour t'habiller et ne pas laisser paraître ta honte et ta nudité, un collier pour t'enduire les yeux et voir clair. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. La Odyssée. Alors, ça se prend successivement. Ou bien au contraire, c'est l'autre, et je crois qu'il faut les deux. L'autre interprétation qu'on n'a pas donnée du tout. On a toujours donné, parce qu'on a toujours lu l'Apocalypse de façon beaucoup trop historique. Alors en lisant l'Apocalypse de façon beaucoup trop historique, on a voulu reconnaître des choses historiques. Alors, ce serait désastreux si l'Apocalypse était historique, parce qu'elle n'aurait de valeur que pour les premières persécutions de Néron, et c'est ce qu'on a dit. Alors après, on n'aurait plus de prophétie pour comprendre ce qui se passe dans l'Église maintenant. Alors, ce serait désastreux. En réalité, l'Apocalypse regarde tout le temps de l'Église. Et n'est pas un regard historique. C'est un regard vertical, directement vertical. Un regard qui vient directement de Dieu et qui nous fait regarder les choses comme Dieu les regarde. C'est une coupe de l'Église comme Dieu peut la faire, selon sa sagesse. Mais c'est une coupe de l'Église, du tissu de l'Église. Vous voyez, c'est une coupe histologique pour essayer de comprendre ce que c'est que ce tissu de l'Église. Et c'est pour ça que les sept églises, pour moi, correspondraient plutôt dans l'Église, les sept structures de l'Église. Alors, Éphèse, c'est la contemplation. C'est sûr. C'est la contemplation, et c'est la contemplation qui porte tout. C'est pour ça que si Éphèse perd sa ferveur, tout le reste ensemble. C'est la contemplation. Smyrne, Pergame, Thyatire, c'est très nettement, alors là il faudrait mettre des nuances, hein, mais c'est au fond l'Église apostolique. Mais l'Église apostolique, il y a mille façons d'être apostolique. Hein. Il y aurait jusqu'à voir l'action catholique, hein, alors qui serait marquée dans la structure telle qu'elle nous est montrée. Il me semble qu'on doit considérer cela plutôt de cette manière-là. Encore une fois, les deux manières ne s'opposent pas. Et comme c'est un langage symbolique, on peut très bien le considérer des deux. Mais je crois qu'il faut considérer les deux. Il ne faut pas être univoque dans l'Apocalypse, hein, parce qu'alors là, ça devient... C'est un langage symbolique. Donc, au point de départ de l'Apocalypse, on nous montre que Jésus gouverne l'Église. Il la porte. Il est présent. Et cette église, elle est une église de la lutte. Elle est une église contemplative, elle est une église de la lutte. D'une lutte pacifique, d'une lutte en vue de l'amour, mais d'une lutte. Et que tant qu'on est sur la terre, il n'y a pas de repos. Impossible. Mais cette lutte, elle est en vue de la paix. Alors, ce premier moment de l'Apocalypse nous fait comprendre la structure de l'Église dans la lumière de Jésus dans sa gloire, nous fait comprendre la correction que Dieu donne aux Églises. C'est Jésus lui-même qui corrige l'Église, ce ne sont pas les théologiens. Le rôle des théologiens, c'est d'essayer de comprendre où est la vérité, mais ce n'est pas le théologien qui corrige l'Église. Il y a des démangeaisons de théologiens de temps en temps de vouloir corriger l'Église, hein, ou de corriger le Saint-Père, ça fait partie des démangeaisons, ça. Et alors, c'est faux. On voit très bien, l'Apocalypse nous montre que l'Église est corrigée par le Christ, parce que l'Église est sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Et donc, si l'Église est sous la mouvance de l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas savoir comment l'Église doit être conduite. Elle est sous la conduite de l'Esprit-Saint. Et ça, je crois que c'est très important. Et ça, l'Apocalypse nous le montre. C'est vraiment la correction des églises, mais une correction qui se fait par les sept esprits de Dieu et qui se fait par le Christ lui-même. Nous avons ensuite, après nous avoir montré cette structure de l'Église et cette correction de l'Église, nous avons ensuite, avec le chapitre 4, de nouveau une grande montée vers le ciel. Vous voyez, ça, c'est la danse de l'Apocalypse. C'est toujours ça. On un regard sur le ciel, alors contemplatif, et puis la descente sur la terre. Et la descente sur la terre, alors c'est le combat. Alors, avec le chapitre 4, nous commençons proprement, j'allais dire, le retour de Jésus. Le bientôt de l'Apocalypse. Il commence avec le chapitre 4. Et avec le chapitre 4, nous l'avons vu, je ne vais pas le reprendre, cette vision tellement belle, extraordinaire du ciel. Mais voyez, hein, ces deux visions parallèles, on regarde d'abord Jésus au milieu des églises. Puis ensuite, la grande vision de la très sainte Trinité. C'est la grande vision de la très sainte Trinité. C'est évident que ce qu'on devrait donner le jour de la très sainte Trinité. Chapitre 4, c'est ça. C'est la grande vision de la très sainte Trinité qui nous est montrée là. Et c'est la seule vision de la très sainte Trinité. Il n'y en a pas 36 dans l'Écriture. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. C'est celle-là qui nous est montrée comme une vision du ciel et cette entrée dans le ciel. Si nous avons le temps, nous y reviendrons après, parce qu'elle est très forte. Et alors, il y a un ordre. Et on voit tout de suite que, au cœur du mystère de Dieu, il y a un grand mystère. Le mystère du petit livre. Je vis sur la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et par derrière, scellé de sept sceaux. Ce petit livre, c'est un rouleau. C'est évident, c'est un rouleau. C'est l'usage de l'époque. Et je vis un ange vigoureux proclamé d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Alors, je crois que nous pouvons assez facilement comprendre que le symbolisme du livre, ce sont les décrets de Dieu. Ce sont les volontés de Dieu. C'est le grand mystère de la prédestination. C'est le livre des élus. C'est dans ce livre, symboliquement, évidemment. C'est le livre du choix de Dieu. Et ce choix est secret. C'est pour ça que personne ne peut le lire. C'est le secret de Dieu, c'est le secret du Père, c'est le secret de Jésus, c'est le secret de l'Esprit-Saint. Cependant, il y en a un qui peut enlever les sceaux et nous livrer, nous faire entrer dans ce livre. C'est l'agneau, comme immolé. Donc c'est Jésus dans son mystère de la croix. c'est la grande vision de la rédemption. C'est Jésus, dans son mystère de la croix, qui nous ouvre le ciel. Et c'est ça que ça veut dire. Parce que tout était fermé. Tout était scellé. Oui. Ce qui veut dire que toute l'ancienne alliance ne pouvait pas pénétrer. Le livre était scellé. Et tant que le livre était scellé, ça voulait dire justement que personne n'entre dans le ciel. Tandis que l'agneau ouvre l'agneau comme immolé. Donc le Christ à la croix. Et ceci nous fait comprendre comment Jésus va être celui qui, avec le Père, nous prédestine. Nous sommes prédestinés par le Christ offert à la croix. Nous sommes prédestinés dans son sang. Nous sommes prédestinés dans son amour et dans sa miséricorde. C'est lui qui reprend tout. Et c'est pour ça que c'est lui qui vient prendre le petit livre du Père. Alors, premier moment de l'Apocalypse, hein, de la suite des événements, le symbolisme du sceau, donc les grandes décisions de Dieu. Ces décisions de Dieu se font à travers les six sceaux. Alors, je crois que les six sceaux nous montrent bien comment Dieu nous prédestine à travers le mystère de la victoire du Christ, le cheval blanc, mais aussi à travers la lutte. Nous sommes prédestinés dans la lutte. Et si nous sommes attentifs à la couleur de ces sceaux, c'est pas commode, mais c'est quand même intéressant à voir, on voit très bien comment, après le premier sceau qui est le sceau de la victoire et de l'amour qui enveloppe tout le reste, nous avons les sceaux qui représentent les conséquences du péché originel, les grandes luttes dans lesquelles nous sommes engagés. Nous sommes prédestinés dans la lutte, et dans la lutte liée à celle de Jésus. Le septième sceau nous fait entrer dans le ciel. Ouverture du septième sceau. Et lorsque l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est le repos éternel du ciel. Et ça se termine dans le ciel. Ça, c'est quand même très très beau. Vous voyez, ça va du chapitre 4 au chapitre 8. Dans ce même chapitre 8, nous allons commencer à voir quelque chose de tout à fait différent. C'est les trompettes. Alors, je vous ai dit, le symbolisme des trompettes, je crois que c'est le point de vue de l'exécution. Parce que les sceaux, c'est les décisions. Et pour les sceaux, seul l'agneau intervient. Tandis que pour les exécutions, pour les trompettes, vous avez des anges. Les anges ont cette trompette, quoi. Ça, on est habitué au symbolisme des anges, cette trompette. Et pour nous, l'Apocalypse, habituellement, c'est les trompettes. Les trompettes du jugement dernier. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas du tout les trompettes du jugement dernier. Les trompettes expriment le point de vue de la lutte et les différents moments de la lutte. Exprime l'exécution. Alors ça devient très difficile. Parce que dans l'exécution, c'est beaucoup plus difficile de saisir ce qui vient de Dieu, ce qui vient directement de Dieu, et ce qui ne vient pas de Dieu. Dans les exécutions, c'est très difficile. Quand vous êtes en face d'un orage terrible ou du mauvais temps, est-ce que le mauvais temps vient de Dieu ou est-ce que le mauvais temps vient du démon? Le mauvais temps qui fait des inondations effrayantes, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient du démon? Il y a des prières pour demander le beau temps. On ne les fait plus nettement. C'est pour ça que Dieu laisse. Allez. Parce qu'on ne dit plus. Il n'y a plus de rogation, il n'y a plus de prière. Il y a eu des articles de théologiens qui ont dit que ça ne servait plus à rien de prier à Dieu. Alors très bien, ça ne sert plus à rien. Très bien, le Seigneur nous demande de prier. Nous avons quand même dit à Rimon la messe pour le beau temps, vendredi dernier. N'est-ce pas? Parce qu'on est en plein d'inondations. Effrayant.
Voilà la seule explication du mauvais temps qui dure.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est la première explication qu'on me donne du mauvais temps qui dure et qui me satisfasse, alors que les explications des ingénieurs météo ne me satisfont pas.
Non, celle-là, elle est vraie. Et Dieu laisse. Parce que justement, on ne peut plus. Et, alors, c'est très difficile dans l'exécution, vous voyez, de voir si ça vient du démon ou si ça ne vient pas du démon. Dieu laisse une très grande place au démon dans la conduite de l'univers et dans le monde physique. Ça, c'est bien évident. C'est montré à travers les sept sons, les sept trompettes, c'est visible. C'est très visible. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir de Dieu. Et donc, qui viennent du démon. Parce que le démon, alors là, c'est ce que l'Apocalypse va nous faire comprendre, le démon a une volonté perverse de destruction de notre petite planète. Ça, c'est pas prophétique, c'est tout simplement la lecture de l'Apocalypse. Le démon veut que l'homme détruise la planète. Il se sert de l'homme. Parce qu'au fond, pour lui, c'est plus glorieux. Étant donné qu'il n'a pas accepté la création de l'homme et de la femme comme chef-d'œuvre de Dieu, alors il veut montrer que Dieu a tort. Quand le démon veut montrer que Dieu a tort, ça va très loin. Et ça ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, le démon est persuadé qu'il a raison. C'est une lutte incessante. Alors, je crois que c'est très important de regarder les sept trompettes. Les sept trompettes montrent ces luttes dans ce qu'elles ont de plus très difficile. Pour moi, les sept trompettes, c'est sûrement une des choses les plus difficiles à expliquer dans l'Apocalypse. À expliquer, c'est-à-dire à comprendre. On comprend bien le grand sens général. Remarquez que c'est peut-être la seule chose qu'on doit chercher. Il y a, entre autres, alors là encore, hein, interprétation des sept trompettes suivant le temps. Alors là, j'y crois pas du tout. Je crois que les sept trompettes ont toujours existé. Mais il y a quand même quelque chose de juste, c'est que plus on s'approche du terme, plus les sept trompettes sont véhémentes. Et plus elles sont alors fortes. Et or plus, la sixième trompette sera particulièrement forte. Et parce qu'elle est particulièrement forte, et il semblerait, quand on lit la sixième trompette, que tout le monde doit être saisi, alors il y a une grâce supplémentaire, chapitre 10. Et moi, je mettrai ce chapitre 10 dans ce que le Saint-Père appelle aujourd'hui le renouveau. Je crois que pour comprendre le renouveau de l'Église, pas le renouveau charismatique, hein, je parle le renouveau dans le sens tout à fait où Saint-Père l'entend, l'Église doit entrer dans son renouveau. Et elle doit entrer dans son renouveau. Et ça, alors, pour moi, le renouveau doit s'expliquer par le chapitre 10 et le chapitre 11. La Bible de Jérusalem dit que c'est ce qui est le plus difficile à comprendre, parce que c'est vrai, c'est pas commun à comprendre, mais pour moi, c'est au contraire quelque chose de beaucoup plus lumineux que les trompettes. Parce que ça, c'est l'intervention directe de Dieu. Mais, tandis que dans les trompettes, on sait très bien que Dieu a laissé aux démons un pouvoir. Alors, c'est très difficile de savoir si la tuile qui vous tombe sur la tête, hein, quand vous sortez d'un endroit, est-ce que c'est le démon qui a bien visé, ou est-ce que c'est la providence qui fait ça pour que vous ayez 6 mois de repos, non, c'est, ou un repos éternel, ça dépend. Non. Alors c'est très difficile de savoir, ça. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Je ne peux jamais savoir avec certitude. On peut deviner, mais on ne peut jamais savoir avec certitude. Et ceux qui le disent avec trop de certitude, ce n'est pas l'Apocalypse. L'Apocalypse nous dit ces choses-là de façon très cachée, pour nous maintenir en état d'haleine. Ce qui est très beau alors avec le chapitre 10 et le chapitre 11, c'est justement ce renouveau entre la sixième et la septième trompette. Vous avez ensuite, après les trompettes, le chapitre 12, qui sont les trois signes, pas les sept signes, comme on dit habituellement, les trois signes. Qui nous montre l'intelligence de la lutte. Ça, nous l'avons vu beaucoup, alors je parlais très vite. C'est l'intelligence de la lutte. Vous voyez, et c'est donné après les trompettes, et je trouve ça très beau. Vous savez, il y a comme toujours, quand on est dans l'action, hein, et qu'on est pris par le tourment de l'action, on a besoin de faire le point. Alors je dirais, le chapitre 12, c'est faire le point. On fait le point, ces grandes luttes. On réfléchit. Et alors, on va essayer de comprendre. Quelle est la signification profonde de cette lutte? Qu'est-ce que c'est que cette lutte dans laquelle on est engagé? Ah, ça nous est livré. La femme et le dragon. Alors là, c'est dit explicitement. C'est la femme et le dragon. Et les deux camps sont nets, puisque c'est la signification. C'est pas les trompettes. Dans les trompettes, c'est difficile à voir. Mais là, c'est dit clairement. Donc, il y a un signe grandiose, la femme, et puis le dragon. Et alors là, il y a toute la théologie sur le dragon. Pour montrer que le dragon, il est anti-trinitaire, anti-père, anti-fils. C'est le serpent et anti-esprit saint, l'adversaire. Et alors, on nous montre comment cette lutte va se compliquer avec le chapitre 13 et le chapitre 14, va se compliquer d'une façon très très forte par le point de vue de la bête de la terre et la bête de la mer. C'est la stratégie du démon. Il y a une stratégie démoniaque qui nous est donnée dans l'Apocalypse. Et cette stratégie du démon, c'est parce que justement, il n'a pas pu être victorieux de la femme, alors il la poursuit. Il poursuit sa descendance. Et il poursuit sa descendance en se servant de la bête de la terre et de la bête de la mer. Et c'est à ce moment-là, au chapitre 4e, que nous avons ce signe nouveau qui est donné, quelque chose de très très beau, qui nous montre comment, au milieu de cette lutte, il y a la victoire de ceux qui sont marqués du sceau de l'agneau. Avec le chapitre 15, nous sommes en présence de ce que représente. Et vous voyez, il y a déjà, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est les signes, ça va jusqu'à la grande lutte, au plus exactement, la moisson. Mais avant l'exécution de la moisson, et alors, on retrouve le symbolisme des sceaux, des plaies. Le symbolisme de ce que représentent les coupes et les plaies. Alors je crois que ce symbolisme des coupes et des plaies, c'est pour montrer le point de vue du jugement. Le dernier moment. Ce n'est plus l'exécution sans fort, c'est de montrer comment tout se termine à travers une dernière épreuve, une ultime épreuve, et une ultime épreuve qui est liée au jugement. Et ce sont les grands chapitres qui nous montrent le point de vue des sept coupes et le jugement de la Babylone, le grand jugement de la Babylone et les derniers combats de l'agneau, les derniers combats du Christ. Et ça, c'est ultime, c'est dernier. On est tout à fait en dehors du temps. C'est tout à fait la fin. C'est sans doute ce que nous vivons maintenant. Nous vivons ces choses-là, les dernières épreuves, les ultimes épreuves pour ce renouveau. Et alors, enfin, dernier, on nous montre la grande victoire du Christ dans la Jérusalem céleste. Donc vous voyez, si je résume bien, je dis, il y a le symbolisme des sceaux. Il y a le symbolisme des trompettes, il y a les signes et il y a les coupes. Et tout se ramène à ça. Mais alors, à côté des coupes, le jugement, les discernements. Le discernement, exactement comme si on jetait bas l'action du démon, pour dévoiler l'action du démon. Comme Jésus dit, voici l'heure où le prince de ce monde est jeté bas. Comme c'est à la croix, au terme des grandes luttes, quand l'Église vivra le mystère de la croix, à ce moment-là, le démon est jeté bas. Le prince de ce monde est jeté bas. Il est révélé. Et c'est ça le discernement. C'est ça le jugement. C'est lorsque se fait ce dévoilement dernier. Alors, si nous regardons ces symbolismes, c'est facile de comprendre le symbolisme des sceaux, les décisions de Dieu. Les trompettes, l'exécution, le signe, l'intelligence du combat, les coupes et les plaies, c'est sous la lumière de la moisson. C'est l'ultime épreuve et c'est lié au discernement. Alors, il y a un contraste étonnant qui nous est donné dans ce discernement. D'une part, la Babylone, la prostituée, la grande Babylone qui est jetée bas, qui s'effondre, et d'autre part, la Jérusalem céleste qui descend d'auprès du ciel, qui descend comme une fiancée parée pour les noces. Et c'est là l'achèvement de cette grande lutte pour nous montrer le but de notre espérance. C'est des questions, on peut les poser encore quelques minutes. Tout à fait. L'ultime combat, mais il y a un ultime ultime. Mais la coupe est tout le temps. C'est pour ça qu'il dit en dehors du temps. Parce qu'il y a eu tout le temps ces coupes. Et c'est pour ça que si on regarde l'Apocalypse d'un point de vue historique, c'est impossible. C'est absolument impossible. Alors que tout le temps, on voit bien qu'il y a toujours eu ça. Mais il y aura un moment, et ça l'Apocalypse souligne quand même, il y a un moment où tout prendra une espèce d'acuité ultime. Et en même temps, un secours particulier. C'est pour ça que je dis le renouveau pour moi. Le 10 et 11, c'est très nettement ce point de vue-là. Ben, il dit ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ça, c'est les calculs des humains. C'est les calculs des humains.
10 ans, c'est très court. C'est un terme très court. On peut calculer 10 ans.
On peut calculer, mais on ne peut pas prévoir pour le sacerdoce. Vous savez bien que depuis le concile, il y a plus de prêtres qu'avant le concile. Sur la terre. C'est ce qu'il faut toujours leur rappeler.
Il y en a moins dans le clergé séculier.
Quoi ?
Il y en a moins dans le clergé séculier.
Depuis le concile. Depuis le concile. Oui. Pas en France, je ne parle pas en France, je parle de l'Église en général.
Parle en France.
Non, je parle de l'Église en général. Non, pas en France. Je ne dis pas qu'en France, il y a autant de prêtres. Je veux dire, dans l'Église entière, dans l'Église. Alors, c'est l'Église qu'on doit regarder. C'est pas la France. C'est l'Église, mais on aura des prêtres étrangers. Exactement. Oui. On aura des prêtres polonais, on aura des prêtres noirs, on aura ça. C'est bien évident. Ils viendront tous. Parce que c'est très important, et c'est ça qu'il faut leur dire tout de suite, que leur calcul, parce qu'ils concitent, et ce calcul, alors, donne le désespoir.
Non, mais d'autant plus que, pour poursuivre son exemple, dans sa propre paroisse, il y a actuellement deux vicaires et deux, trois prêtres étrangers, alors, oui. Qui sont là de passage. Mais il y a bien un, ça fait bien 5 ans qu'il est là.
Ils resteront, après. Ils ne partiront pas. Mais ça, c'est très important, ça m'a été dit à Rome, ça. Vous voyez, et je crois que c'est très important, parce que dès que vous leur dites, dès qu'ils disent ça, moi je leur renvoie cet argument. Ils n'ont plus quoi dire. Alors je dis, mais enfin, vous jugez comme si la France était l'Église. Mais non.
Mais c'est très bien comme vous conduisez
pour l'Église. C'est évident, pour l'Église de France, c'est très... Parce qu'à fond, il y a quelque chose qui n'est pas... Alors, on fait des méthodes pour préparer, comme s'il y avait plus de prêtres, mais non, puisqu'il y en a plus. Et nous serons obligés de mendier. Et de demander, et ça commence. Oui. Mais ça va très loin, vous savez, ce jugement-là qui donne. Je voyais l'autre jour, à cause de la communauté Saint-Jean, je cherchais un peu un lieu en second. Alors je dis je ne dis pas à quel endroit, c'était quel diocèse, c'est pas la peine. Je lui dis, est-ce que vous n'avez pas, elle a dit, communauté de combien? Je dis, enfin, on sera sûrement 60. 60, futurs prêtres. Ben, je dis, au moins 50 dedans. Ou alors ne venez pas chez nous. Vous serez un anti-témoignage. Vous serez un anti-témoignage, parce qu'alors à ce moment-là, vous enlevez toute la crédibilité de notre prédication. C'est affolant. C'est énorme le truc. Mais oui. Je reprends ce qu'on dit. Il n'y aura plus de prêts. Donc préparons les fidèles.
Exactement.
Préparons les fidèles aux cérémonies. Vous voyez ? Et le prêtre ne sera plus que comme un missionnaire qui viendra dire la messe à droite et à gauche, mais toute l'organisation sera prise par les laïcs. Que l'organisation temporelle soit prise par les laïcs, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais que pas l'organisation liturgique, pas l'organisation spirituelle. C'est impossible. Alors, c'est leur point de vue, ça. Alors, si on vient avec une communauté de 50 prêtres, ah, il y a encore des vocations. Je vous ai dit, c'était moi, c'était net, cette expérience que j'ai eue de cet archevêque de Formos quand il est venu à Rimaud. Il nous a parlé de façon admirable, c'était très très beau, parce qu'il venait Chine continentale, lui. Et il souffre énormément, parce que, évidemment, on voit très bien ce qu'il doit souffrir, cet homme-là. Alors, j'étais en auto avec lui de Fribourg à Rimaud, et puis il est resté toute la journée à Rimaud, au milieu de nous. Il assistait aux cours, en bon chinois qu'il est. C'était des cours de philosophie. Je lui ai dit, écoutez, monseigneur, vous n'allez pas assister aux cours. Oui, oui, il y a toujours quelque chose à prendre qui éclaire toute votre vie. Alors, à la fin de la journée, je lui ai demandé de donner la bénédiction je lui ai demandé de me donner sa bénédiction. Et puis il s'est mis à genoux, puis il m'a dit, maintenant Père, donnez-moi votre bénédiction, au nom de la communauté Saint-Jean, parce que vous ne sauriez croire ce que c'est que pour moi ça, de voir ces 70 jeunes fervents. Dedans il y aura bien 60 prêtres, je dis oui, je crois, alors qu'on m'a dit qu'il n'y avait plus de vocation en France. On dit ça là-bas. Et moi ça me décourage, parce que je sais que la France a quelque chose à nous donner. Et quand je revois ça, alors pour moi, c'est une très grande joie. Parce que je me dis, il y a encore des vocations.
Mais il y en a plein de vocations.
Mais il y en a plein, je suis tout à fait d'accord avec vous, il y en a plein.
On les décourage.
Mais on les décourage. On les met bien à plein.
C'est quoi, la
sociologie. Mais oui, l'année dernière, sans faire du tout, simplement qu'on est rentré, il y en a quand même 43 qui sont rentrés. Et 43, et à part El Monial, où il y a quand même quelque chose qui tient debout et qui est bon, ils ont dû refuser. Ils ont dû refuser, tellement il y en avait. Donc c'est faux de dire ça. Du reste, il va y avoir, vous savez bien, on m'a dit 5 et on m'a dit 10. Alors je ne sais pas quel est le vrai chiffre, mais 10 évêques qui vont rouvrir leur séminaire l'année prochaine, au mois d'octobre. Donc, ça commence.
Ça va être une révision déchirante, ça va pas être un renouveau.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Ça va être une révision déchirante plus qu'un renouveau.
Oui, mais s'il faut accepter de faire la
même. Mais c'est un renouveau.
Mais j'ai assisté à quelque chose, j'ai entendu une chose assez extraordinaire, j'ai entendu un évêque avec deux ou trois de ses prêtres parler de célébration sans prêtre. Et l'évêque dit, je suis allé dans telle paroisse assister à une célébration.
Il a assisté.
En tant qu'évêque. Pour voir le futur. Préparer le futur.
Il est venu
assister à une expérience
intimement qu'il n'a pas célébrée. Tout ça, c'est tout. Vous voyez, ça veut dire que la méthode passe avant la finalité.